Je suis Sydney Côté. Bienvenue sur Amplitude. L'objectif de cette balado est de démystifier l'univers des technologies de la communication et du marketing en rencontrant des experts œuvrant dans le milieu pour en discuter ouvertement. Cette balado est une initiative de Meta qui offre des services de stratégie, de contenu et d'accompagnement pour les entreprises, offres professionnelles et startups. Bonjour et bienvenue sur notre balado. Je me présente Sydney Côté aujourd'hui à l'animation. Je suis en présence de Jean-François Ménard, directeur stratégie chez Meta, Patrick Bélan, VP stratégie chez Cible Média et Joannie Tremblay, consultante en stratégie de contenu et rédaction. Bonjour.
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 Alors, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, on vous a concocté une petite table ronde pour explorer l'univers du podcast et comprendre de quelle façon il peut s'intégrer dans une stratégie de contenu. Donc, sans plus tarder, pourquoi le podcast et surtout, pourquoi est-il de retour en force dans nos vies en 2018?
En fait, tu dis podcast, rentrer dans nos vies. En réalité, c'est tout le phénomène de consommer du contenu quand on veut. C'est ça qui fait la grosse différence avec le podcast, c'est qu'en fait, ben, comme Netflix et compagnie, ben là, tu as juste à ouvrir ton application sur ton téléphone, partir ton contenu que tu veux écouter, que tu sois en train de cuisiner ou que tu sois dans ta voiture. De toute façon, je pense que tu vas nous partager des chiffres qui vont nous montrer que les gens consomment le podcast un peu partout. Donc, c'est ça qui fait son revival. Les gens comprennent maintenant que le contenu sur demande, ou l'information sur demande est la façon de faire.
Oui, ben c'est un peu le réflexe simple, là, c'est de dire que le podcast est en train de faire à la radio ce que Netflix a fait à la télé. Change nos habitudes de consommation, mais au-delà de ça aussi, c'est un média différent qui a des formats différents, qui amène des avenues différentes en termes de stratégie de contenu et en termes de positionnement pour les marques, là.
En 2017, c'est 10 millions de Canadiens et Canadiennes qui ont consommé au moins un podcast. Sur ceux-ci, 7 millions en consomment au moins un par mois. Les 18 à 34 ans sont ceux qui en consomment le plus, les hommes plus que les femmes, et en majorité, ceux qui ont une éducation post-secondaire. Les lieux d'écoute les plus populaires étant à la maison, dans le transport et au travail. Et 47 % des utilisateurs aimeraient plus de contenu canadien. Donc, le podcast nous permet d'avoir accès à notre public à des moments et dans des contextes où c'est autrement impossible de les rejoindre par des canaux plus traditionnels. Maintenant, de quelle façon est-ce qu'une entreprise va faire usage de cette nouvelle attention? Je veux dire, comment on profite de ce moment d'intimité avec son public pour obtenir le meilleur des impacts?
Il faut, je pense, si on se lance de manière authentique dans cette démarche-là, avoir l'intention de réellement se rendre utile aux yeux ou dans la vie des auditeurs à qui on veut s'adresser. Ça part d'une intention bienveillante. On ne commence pas un podcast en se disant « comment je vais le monétiser? » Oui, ça peut être éventuellement le cas quand on peut aller chercher une certaine notoriété, on peut aller chercher des commanditaires. Et on peut y adjoindre un volet où on va, avec nos collaborateurs, être en mesure de vendre des formations, de vendre quelque chose, mais ça ne doit pas être le but premier de ce média-là. À la base, c'est vraiment au niveau du rayonnement et de l'engagement. C'est important aussi qu'on soit capable d'être transparent par rapport à ça, parce que sinon, ce n'est plus un podcast.
Absolument. Comme tu dis, c'est rayonnement et de se positionner comme étant un leader vraiment oui. dans son domaine. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Puis si on regarde le format, entre autres, au niveau publicitaire, et oui, il y a énormément de podcasts qui ont des commanditaires, des partenaires financiers, c'est normal.
Mais l'intention de base ne doit pas être...
Non, absolument pas. Absolument pas. Et si elle est faite comme ça, et si c'est fait en format publicitaire, ben on le voit dans
un paquet d'autres chiffres. Ça manque de transparence.
Ça fonctionne.
Les gens
n'embarquent
pas là, tout simplement. Oui.
Il y a un côté très personnel aussi. Tu sais, je t'écoutais en parler, par exemple, dans ton quotidien, comment tu t'écoutes, par exemple, comme une autre agence à New York, vient un truc semblable au tien. Il y a quelque chose dans le podcast qui, je trouve, est très personnel, qui amène le podcast dans ton univers privé, dans ton quotidien, que les grands médias n'ont pas nécessairement. Puis ça aussi, je trouve que c'est un élément très, très intéressant pour ceux qui aimeraient créer des podcasts pour des raisons pour lesquelles ils créent, parce que les gens qui les écoutent, pour faire une comparaison facile, je trouve que ça ramène à ce qu'un YouTuber fait, dans le sens où ta relation avec la personne, le créateur de contenu, elle devient très personnelle. Ouais. Tu l'amènes dans ta vie, tu l'amènes dans ton quotidien, tu l'écoutes au moment où tu es à l'aise de le faire. Donc, il y a une relation qui est très, je dirais à la limite, émotive avec le créateur de contenu dans ce cas-là. Ce qui est une belle opportunité dans ce format-là. Puis même pour revenir sur le point que Joanie apportait pour ce qui est des organisations, par exemple pour les communications à l'interne, encore là, d'offrir un média qui est confortable et qui permet de stimuler l'engagement de tes employés, de ta structure, de donner un format qui peut être amené dans leur quotidien aussi, ça permet de peu d'abattre les murs entre l'univers professionnel froid, l'univers personnel. Il y a comme ce double univers-là qui peut se mélanger à travers le podcast. Là.
Oui, le potentiel est là, il suffit de bien faire les choses. Puis après, j'aimerais ça qu'on adresse aussi un peu, on parle beaucoup là, dans les divers médias sociaux de drop ou de baisse, du reach, de la portée, j'ai la misère avec mon français, de la portée organique. Donc, on essaie de parler à tout le monde en même temps, puis je le disais un peu plus tôt, mais quand est-ce qu'on s'adresse vraiment à notre public cible dans une discussion de plus de 30 secondes, que ce soit un format vidéo Facebook ou d'une interaction like, j'aime, commentaire sur une publication? Donc, c'est vraiment l'opportunité à saisir pour, OK, on parlera peut-être pas à nos 200 000 fans Facebook, mais on va parler à nos 2000 ou 200 auditeurs fidèles de notre podcast et ça va devenir nos leaders de notre message, finalement, ou du moins notre courroie de transmission et nos porte-paroles naturelles, finalement.
Oui, puis dans un univers où on lit un article par semaine sur l'attention moyenne de 15 secondes d'un individu sur Facebook ou sur Instagram, de réussir à créer un contenu de qualité qui dure 10, 15, 20, 25 minutes et est consommé par ses membres, par son audience, ça a une valeur incroyable quand on y pense.
Personne ne s'entend sur la date de naissance du podcast, mais certains disent que ce format pourrait exister sur le web depuis aussi longtemps que 1993. Ce qui est certain, c'est que son apparition sur la plateforme iTunes depuis 2004 n'a que contribué à la croissance de sa popularité. Nous vivons donc en 2018 une explosion du format sur les grosses plateformes comme Spotify et SoundCloud, mais aussi sur les plateformes dédiées comme Stitcher Radio, Podcast Addict ou même la plateforme québécoise Balado Québec. Il n'est donc pas étonnant de voir de grosses marques telles que Jack Daniel's, Walmart ou même Campbell se doter d'une balado puisque c'est à ce jour un des meilleurs outils pour développer et mobiliser ses ambassadeurs.
Et ça crée aussi, je trouve, un lien avec la marque. C'est là qu'il y a peut-être une opportunité aussi avec les marques, c'est de se commettre puis de mettre de l'avant leur mission dans un effort de marketing de contenu qui dans l'immédiat, n'est pas quelque chose qui convertit en vente, mais qui est un bel exemple de leur mission. On en parlait un peu plus tôt, il y avait un exemple que j'aimais bien qui était Hotjar, qui est une compagnie d'analytique qui met des layers de données sur des sites web, en gros, et qui depuis le début parle de justement l'interaction humaine, de la qualité de l'interaction humaine dans ce qu'ils font, mais qui au final sont une compagnie d'analytique, donc c'était très froid, c'était très peu humain. Et qui ont lancé un podcast où on parle de l'être humain en entreprise, de l'être humain en agence, du créatif, qui s'appelle The Human Strike Back. Et je trouvais que c'était comme une belle occasion justement de mettre de l'avant leur commitment autour de l'être humain et non pas seulement les données, de donner comme un peu une norme à leur mission et à leurs produits aussi. De plus en plus aussi, on voit des trucs comme WeTransfer qui a fait un WePresent, où ils présentent des artistes. C'est toujours des occasions un peu de put your money where your mouth is, de montrer que c'est pas juste une mission que tu mets sur une page de ton site web que peu de gens visitent, que c'est aussi une vision de ton entreprise, de tes produits, de ta clientèle.
Mais donc, comment est-ce qu'on se lance en podcast? Comment on planifie ça? Une question qui revient toujours, c'est combien ça coûte un podcast?
Oui, réglons ça rapidement.
Ah, ben, réglons ça!
Comme on disait, ça coûte pas cher à produire. Après ça, par contre, il faut le diffuser.
Exactement.
Puis il faut voir comment on veut le diffuser, puis c'est là je pense que ça fait une grosse différence.
La réponse pourrait être entre 20$ par mois et 20 000$ par mois.
De base, effectivement. Exactement. Ça coûte 20$ par mois, alors être abonné à une plateforme de diffusion de podcast, après ça, ben, il n'y a pas de limite.
Faut aussi le danger, en fait, je pense que ça, c'est un des dangers à souligner, c'est de ne pas avoir de ligne éditoriale et de travailler en mode free for all, et c'est là que l'auditoire va décrocher. Si on n'a pas de message stratégique, si on s'improvise un petit peu, puis qu'on veut faire un podcast avec des bonnes intentions, mais qu'au final, on n'a pas le sens du message ou qu'on n'a juste pas réfléchi à ce qu'on veut dire puis à qui on parle, ben on a juste une chance ou deux de faire bonne impression.
Mais ça, c'est pour moi toute la réponse aussi au pourquoi travailler avec une agence ou est-ce qu'il faut travailler avec une agence? Parce que la vérité, c'est que tout le monde connaît son propre produit, évidemment. Tu sais, je veux dire, au quotidien, t'es là, t'es dans le brand, t'es dans l'entreprise. Mais tous ces outils-là, cette structure de contenu-là, l'accompagnement, la préparation, s'assurer que c'est pertinent, s'assurer que la qualité est bonne, s'assurer qu'on prépare bien les gens, s'assurer qu'on dirige la communication assez, mais pas trop, qu'on joue bien avec la ligne, on n'est pas dans de la propagande, on n'est pas non plus dans de l'infopub, on est vraiment dans de l'information ludique. Parce qu'encore là, on ramène à notre point, si c'est pas pertinent, si c'est pas intéressant, les gens se désabonnent, quittent immédiatement.
Il faut absolument que ce soit rattaché à la stratégie de contenu qui a été établie par la marque ou par l'entreprise. C'est l'extension du reste de ton contenu, oui, mais non. Il faut que ça reste pertinent avec ton ADN. Par contre, il n'y a aucun message commercial et il faut stratégiquement s'asseoir et c'est du one-on-one avec chaque client pour établir, OK, est-ce que c'est cohérent avec le reste de ta stratégie, mais c'est l'extension de ta stratégie de contenu.
C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on a su répondre à plusieurs des questions que vous aviez sur le podcast et sur la façon dont on peut s'en servir à l'intérieur d'une stratégie de contenu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter au admin@agence-meta.ca. Merci à vous trois de vous être prêtés au jeu. Et avant de conclure, avez-vous des podcasts à suggérer à nos auditeurs?
Un podcast que j'aime bien suivre et qui, j'espère, reviendra et va se poursuivre, c'est celui de Cordes Sensibles. Ce que j'aime, en fait, du format qu'il propose, c'est que c'est vraiment une extension du contenu et des entrevues que Marie-Ève Tremblay présente sur les médias sociaux, principalement. Et donc, dans les discussions, j'ai souvent l'impression qu'on va plus loin, il y a quelque chose de plus intime. Donc, je trouve qu'ils ont parfaitement exploité le format podcast dans leur cas. Donc, allez voir ça. Écoutez ça, plutôt.
À recommander, il y en a plein. Pour s'informer, il y a The Daily du New York Times, qui est un excellent exemple de ce que c'est un podcast. Dans le domaine un peu marketing, il y a eMarketer, qui est Behind the Numbers, qui tous les matins est absolument délicieux pour moi, parce que j'évolue dans ce milieu-là. Mais mon vrai coup de cœur, ça s'appelle Estown. Et c'est en réalité un docu... Je peux pas vraiment le dire, en fait. C'est produit par Serial, qui est la grosse firme de podcasts aux États-Unis. C'est vraiment à découvrir. C'est à peu près une douzaine d'épisodes et ça se dévore, là, mais comme un roman.
Puis moi, je vous proposerais peut-être deux trucs. Un truc plus axé médias sociaux, donc marketing. The Science of Social Media, qui est fait par Buffer. Et un truc qui me suit depuis plusieurs années maintenant, c'est Star Talk de Neil deGrasse Tyson, qui est un côté très geek, mais qui amène des entrevues très intéressantes, un format dynamique, et qui, par sa portée, Neil deGrasse réussit à avoir des entrevues très intéressantes, par exemple, avec des anciens présidents ou des personnalités, ou les amène dans des sujets complètement éclatés sur l'astrophysique.
Écoutiez Amplitude, une initiative de Meta.